On va lire un premier verset dans l'Ecclésiaste. Alors, l'Ecclésiaste, c'est un livre qui fait partie de ce qu'on appelle les livres poétiques. Il y en a cinq. Il y a le livre de Job, le psaume, les proverbes. Ensuite, vous avez l'Ecclésiaste. Et aussi le Cantique des Cantiques. Et on va lire un verset, vous le connaissez bien, au chapitre 3. Ecclésiaste, chapitre 3. Et on va lire 9, 10 et 11. Le livre de l'Ecclésiaste, on va y trouver le titre de notre partage ce matin. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 9. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Verset 11. Il fait toute chose belle en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Et le titre de mon message, c'est le début de ce verset 11. Dieu fait toute chose belle en son temps. En son temps. Je voulais dire à Jean-Son de prendre ce chant, après je me suis dit, je ne lui dis pas. Mais je crois que le Saint-Esprit s'en est occupé. Voilà. En son temps. Tout ce que Dieu fait est parfait. Alors, au début de ce chapitre 3, l'Ecclésiaste énumère les différents temps qui constituent la vie humaine. Si vous regardez juste le verset 4, il dit ceci. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour se lamenter, et il y a un temps pour danser. Alors, ces différents temps de la vie, qui sont parfois diamétralement opposés, hein, d'un côté les rires, d'un côté le temps des pleurs, sont voulus et sont permis par Dieu. Le problème, c'est que l'homme qui est coupé de Dieu ne peut pas découvrir que tous ces temps particuliers que nous sommes appelés à vivre ici-bas sur la terre s'insèrent dans un plan qui a été conçu par Dieu. Je le dirai souvent ce matin, nous vivons la vie un petit peu, vous savez, on dit cette expression, pardon, la tête dans le guidon. On vit une épreuve, ou on vit un temps de joie. On est focalisé, presque un peu enfermé, sur la situation que nous vivons. Celui qui comprend qu'il fait partie du grand projet de Dieu pour l'humanité, réalise que derrière tous ces temps de la vie, quel qu'il soit, Dieu a un plan, Dieu a un projet. Je dirais que Dieu, notre vie, nos existences, eh bien, sont une belle harmonie orchestrée par Dieu, le Créateur de toutes choses. Alléluia! Je voudrais vous encourager ce matin au travers de la parole de Dieu. Vous qui peut-être être dans le doute, peut-être dans la souffrance, peut-être le chagrin, vous qui êtes peut-être fatigué par les soucis de la vie, vous qui êtes peut-être à des croisées de chemin, vous qui êtes peut-être en conflit dans votre cœur, vous qui êtes peut-être dans la crainte du lendemain, presque justifiable dans les temps que nous vivons. Je voudrais vous inviter à lever les yeux vers le Seigneur et à considérer avec émerveillement que Dieu a prévu pour chacun de nous un temps pour tout et que votre vie personnellement, elle fait partie d'un merveilleux projet de Dieu pour chacun d'entre nous. Si vous ne deviez retenir qu'une chose ce matin, vous voyez, je suis gentil. Je ne vais pas vous demander de tout retenir, parce que je sais qu'on n'arrive pas à tout retenir. Déjà parce que nous, on n'arrive pas forcément à bien vous interpeller. Mais si vous ne deviez retenir qu'une chose ce matin, c'est celle-ci. Dire que Dieu fait toute chose belle en son temps signifie que Dieu ne se trompe jamais. Alléluia. Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne fait pas d'erreur. Nous, on se trompe. Parfois, souvent, On fait des erreurs, parfois, souvent. Dieu ne se trompe jamais. Il fait toutes choses belles en son temps. Et je dirais que même notre rencontre ce matin n'est pas le fruit du hasard et s'insère aussi dans ce plan merveilleux et minutieux. Peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais vous n'êtes pas là par le fruit du hasard. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Je vais juste organiser ce message en trois parties. Ce sera trois mots. Bon, ça aussi, vous pourriez le retenir quand même. Hein. On essaye ? Et après, je vous pose la question au fond. Hein. Parce que moi, je m'en souviens un peu, j'y ai passé du temps. C'est facile pour moi. Le premier temps de ce message, ce sera un mot. Harmonisation. Tout ce que Dieu fait est cohérent. Harmonisation. Si vous regardez la création, c'est pour ça que j'ai voulu chanter ce chant, quand vous regardez la création, on ne peut que dire tout dit qu'il est merveilleux. Quand vous regardez le premier chapitre de la Genèse, nous voyons comment toutes choses ont été créées avec une parfaite harmonie. Dieu a pu dire, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Genèse chapitre 1er et le verset 31. Quand on considère l'univers dans son ensemble, quand on considère l'infiniment grand comme l'infiniment petit, aujourd'hui il y a des puissants télescopes qui nous envoient de ces images, c'est bluffant. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder, c'est vraiment époustouflant. Quand on considère l'infiniment grand comme l'infiniment petit, on fait partie un peu de l'infiniment petit hein, quand on regarde le télescope là-haut, hein. Bref. Quand on considère l'exceptionnelle machinerie qui est notre corps, nous ne pouvons qu'être émerveillés par l'harmonisation de toute chose que Dieu fait. Nous connaissons cette célèbre phrase de Voltaire, « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et qu'elle n'est pas d'horloger ». C'est Isaac Newton qui le disait en d'autres termes, il a pu dire ceci. La merveilleuse constitution de l'univers, avec son harmonie incomparable, n'a pu se faire que selon les plans d'un être omniscient et tout-puissant. Cela demeure ma plus haute et ultime conviction. Quand j'étais plus jeune, je m'intéressais à tous ces regards un peu scientifiques sur l'œuvre de Dieu, et combien même parfois des scientifiques athées ont été obligés de plier le genou devant Dieu, devant l'extraordinaire, la fascination qu'ils avaient de découvrir avec quelle minutie, quelle harmonie les choses ont pu être établies. D'ailleurs, l'apôtre Paul a bien raison de dire ceci, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Romains chapitre 1er, verset 20. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Nous parlons ici d'harmonisation, de cohérence. Quand vous regardez toute la création, oui, harmonisation. Je prends un deuxième exemple, j'ai pris la création. Je voudrais prendre l'Église. L'Église, c'est aussi une autre création de Dieu. C'est lui qui l'a bâtie. Pour parler justement de l'Église, l'apôtre Paul va utiliser l'image du corps dont je vous parlais tout à l'heure, cette exceptionnelle machinerie que nous sommes. D'ailleurs, l'Église portera un nom lié à cet exemple. C'est le corps de Christ. Alors, on va lire quand même un verset ensemble. Éphésiens 4, verset 16. Éphésiens 4, verset 16, c'est de lui, de Christ, hein, qui est le chef, qui est la tête. c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, voyez, harmonie, cohérence, un seul, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Je vais vous relire ce verset dans la transcription Parole vivante. Car c'est de la tête, Christ, que tout le corps tire cohésion et unité. C'est en restant dans sa dépendance que l'ensemble, bien lié et coordonné, grâce aux différents muscles et ligaments, forme une structure harmonieuse, à condition, bien sûr, que chaque organe remplisse son office suivant la fonction qui lui a été assignée. Je ne vais pas un petit peu plus loin, mais ce qui est important, c'est de bien comprendre le corps, l'Église, est un corps harmonieux. Vous savez, notre corps physique, parfois on ne se rend pas tellement compte que c'est vraiment une belle machinerie. Sauf quand on a un problème. Tiens, je ne savais pas qu'il y avait cet organe qui faisait ça. Ben, c'est quand ça ne va pas, parfois, qu'on s'en rend compte. L'Église est une œuvre voulue par Dieu comme une œuvre harmonieuse. L'Église, ce n'est pas des membres dispersés les uns par rapport... Oh tiens, il y a un œil qui se balade là-bas. Non. L'Église, c'est un corps, un ensemble bien coordonné. Et j'en profite pour vous rappeler quelque chose de fondamental, c'est que ces dons que Dieu accorde à chacun d'entre nous, et là individuellement, ils nous ont été donnés, non pas pour une satisfaction personnelle, mais pour le bien commun. Il est écrit « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune » dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, où il est ailleurs écrit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » 1 Pierre 4, verset 10. Chaque membre du corps de Christ a reçu au moins un don. Si je garde l'image du corps physique, je dirais une fonction, mais pour le bien de tous. Elle est là, cette harmonie. Que je prêche, que je balaye, que je monte dans le grenier, ou que je pianote sur l'instrument. Qu'importe du moment que cela contribue à l'utilité commune. Une autre image que j'aime bien, j'ai une petite sensibilité au niveau de la musique, c'est l'orchestre. Quand vous avez un orchestre, par exemple un orchestre symphonique, vous savez, il y a plusieurs familles, les cordes, les bois, les cuivres, les percussions. Vous savez, moi j'aime bien, il y a un moment là où c'est les trompettes, les percussions, là ça y va, là, ça fait du bruit. Puis d'un seul coup, paf, gros silence. Ah, la petite flûte là qui vient là. Extraordinaire. Chacun à sa place pour le bien commun, une symphonie. Dieu fait toutes choses belles en son temps, dans son œuvre, dans sa création. Il le fait avec cohésion, avec harmonie, harmonisation. Et je terminerai par un troisième exemple. Je vous ai parlé de la création de l'Église. Et je voudrais vous parler aussi très rapidement du plan de salut pour l'humanité. Je crois que nous ne sommes pas assez habitués à considérer le plan de salut de Dieu en faveur de l'humanité comme un ensemble. Bien souvent, nous relayons le plan de salut à la vie de Christ, au Nouveau Testament, mais nous devons concevoir que la Bible est un ensemble cohérent. Parfois complexe, c'est vrai, il y a des passages, il y a des, notamment dans l'Ancien Testament, des passages complexes, mais nous devons considérer que de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu poursuit un même projet et un plan pour le salut de l'humanité. Dieu a non seulement, si je me trompe de page, quoique on n'était pas loin de la fin, cette vision globale de la Bible, vous savez, des fois on est sur un texte, vous disiez, c'est vrai que la vie de Christ, elle concerne le Nouveau Testament, etc. Cette vision globale, peut nous permettre de voir que le centre de gravité de toute l'Écriture, comme je disais, de la Genèse à l'Apocalypse, elle converge vers une seule et même personne, l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Jésus a pu dire ceci aux disciples après sa résurrection, écoutez, à hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures, Luc chapitre 24 et verset 25. C'est un tout, une cohérence, une harmonie. Dieu poursuit un plan, un projet pour l'humanité et pour tous les hommes. Il y a dans la Bible, du début jusqu'à la fin, comme un fil conducteur. C'est l'histoire du salut de l'humanité qui trouve son apogée dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et nous sommes parfaitement inclus dans ce plan depuis la nuit des temps. Il est écrit, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Éphésiens chapitre 1er, versets 4 et 5. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Vous voyez, quand on lève un petit peu les yeux, quand on sort un petit peu de ces temps qui tranchent un petit peu notre existence, nous pouvons découvrir que Dieu poursuit un plan, un projet, dans lequel, par sa grâce, il veut nous inscrire aussi parfaitement. Je voudrais dire quand même qu'il faut faire attention à quelque chose. Dire que Dieu articule toutes choses ne doit pas nous déresponsabiliser. Nous faisons des choix. Bon, c'est vrai, des choix, parfois, ils sont catastrophiques. Mais même dans ces cas-là, Dieu continue à nous insérer dans son projet. Il n'est jamais pris au dépourvu. Jamais. Et puis, il a une grande qualité. Ah, celle de pouvoir changer le mal en bien. Alléluia. Même si je me suis trompé, fourvoyé, même si... À la limite, j'ai été opposant à tout le plan et le projet qu'il avait pour ma vie. Alléluia, il ne désespère pas en moi. Et il a cette capacité de changer même le mal en bien, de me réinsérer dans son projet. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Ceux qui ont cloué sur cette croix son propre fils, son unique, ont contribué au plus grand bienfait de l'humanité. L'apôtre Paul dit... Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Oui, au lieu même où le péché s'est manifesté dans toute son horreur sur cette croix, la grâce divine a atteint sa plénitude. Quel mystère ! Je vous ai lu Romains chapitre 5, verset 20. Quel mystère ! Dieu a cette capacité. Dieu poursuit un plan, un projet. Pour l'humanité, il poursuit un plan, un projet pour ta vie. Et il a cette capacité de nous insérer, de prendre ce qui est catastrophique, tout ce qui pouvait dire, il n'y a plus d'issue dans ma vie, dans ce projet, et il est capable d'en faire du bien. Je voudrais vraiment vous encourager, vous qui peut-être réalisez que ma vie, elle n'a pas d'importance. Vous savez, des fois on entend, on cherche un sens à la vie. Qui que vous soyez, que vous soyez dans le plan de Dieu, parce que parfois on sait qu'on est dans le plan et dans les voies du Seigneur qu'il a prévu pour nous, mais où que vous soyez complètement dehors à côté, Dieu a un plan, un projet, parce que du mal, il peut en faire triompher du bien. S'il y en a bien un qui a de l'espoir pour vous, c'est bien le Seigneur. Pour décrire la cohésion, l'harmonisation, dans le plan de Dieu lors de la mort de Christ à la croix, l'apôtre Paul s'exprime en ces termes, je vous lis le verset, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Il y a ici une notion dans ce verset de perfection dans le timing de Dieu. Et ça, c'est le deuxième mot que je laisse sur votre cœur ce matin. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Nous venons de parler d'un mot. Vous l'avez déjà oublié ? Harmonisation. Attention, hein ? Vous pouvez l'écrire, vous avez le droit de... Harmonisation. Nous arrivons maintenant à un autre mot. Précision. Dieu agit au moment opportun, au temps marqué. Le verset de l'Ecclésiaste que nous avons lu tout à l'heure, « Dieu fait toutes choses belles en son temps ». Dans une autre version, la version Parole de vie, il est écrit ceci, « Dieu fait arriver toutes choses au bon moment ». Alléluia. C'est pas merveilleux. Je vais prendre juste rapidement quelques exemples. Vous vous rappelez l'histoire d'Abraham lorsque Dieu lui demande de sacrifier son fils Isaac? On en parle souvent de cette histoire. Il y avait Abraham, son fils Isaac, puis il y avait aussi le bélier. On va le lire ensemble, juste le verset, regardez. Genèse 22. J'aime bien quand même vous faire chercher un peu. En plus, ça fait circuler le sang dans vos bras. Parce que des fois, j'ai l'impression que vous endormez un peu quand même, hein. C'est pas moi qui vous endors, c'est parce que vous n'avez pas très bien dormi ou que vous êtes couché tard, voilà. Genèse 22, verset 13. Bah, c'est une histoire qui se finit bien, hein. Bon, partout, pas pour tout le monde. Et le bélier, ouais. Juste le verset 13, vous relirez si vous ne connaissez pas ce contexte. Mais au moment où... Abraham va saisir le couteau pour sacrifier son fils, l'Éternel intervient. Et il est dit ceci au verset 13, « Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, tiens, comme par hasard, retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier, l'offrit en holocauste à la place de son fils. » Retenez bien ceci, c'est que Dieu n'est jamais dépassé par un événement, Dieu n'est jamais pris au dépourvu. On a des indications sur ce qui s'est passé. Vous savez, Abraham a discuté avec Isaac. Voilà, on sait un petit peu, ils ont cheminé jusqu'à l'endroit du sacrifice. Par contre, on ne sait rien du bélier. On a l'impression qu'il y a un drone, vous savez, là. Hop, livraison du bélier en temps... On peut penser peut-être, là c'est pas écrit, hein, c'est moi qui... Puisqu'on sait rien. On le découvre à ce moment-là. Peut-être qu'il était dans un troupeau, il s'est peut-être un petit peu égaré, il a vu une herbe un peu plus grasse ailleurs, tout ça, peut-être qu'il s'est gambadé. Si on regardait les deux histoires comme ça, à la limite, il n'y a pas de rapport ou quoi que ce soit. Et puis, petit à petit, à un moment donné, il s'est fait piéger par un buisson. Et puis, au moment où Abraham lève le couteau, il voit ce bélier. Apparemment, deux événements que rien, a priori, ne semblait rejoindre. Dieu les a fait coïncider. On parle de la providence de Dieu. Hein, providence qui désigne l'action de Dieu sur le monde. Providence pro en avant, c'est-à-dire il voit en avant et il prévoit. Il pourvoit. C'est comme cela en tout cas qu'il révélera son nom à Abraham. Cela signifie quoi ? Que le cours des événements, ou encore un événement particulier que l'on aurait pu qualifier de hasard, n'est pas le produit de circonstances aléatoires, mais est issu de l'action bienveillante de Dieu. Si vous avez toujours la Bible ouverte dans ce même chapitre, regardez avec moi le verset 20. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici Milca a aussi enfanté des fils à Nakhor, ton frère. Uts, son premier-né, Buz, son frère, Kemuel, père d'Aram, Kézed, Azo, Pildash, Jidlaf et Bethuel. Si vous avez des soucis hein, pour choisir des prénoms, hein, n'hésitez pas, hein. Je l'ai pris exprès. Hein. Regardez, verset 23, Bethuel, a engendré Rebecca. C'est qui Rebecca? Eh bien, ça sera la femme d'Isaac. Ça veut dire qu'au moment même où Abraham lève le couteau sur Isaac, sa belle-sœur donne naissance au futur papa de Rebecca qui sera l'épouse d'Isaac. C'est-à-dire que Dieu a non seulement préservé la promesse de la descendance qu'il avait faite à Abraham en épargnant Isaac ce jour-là, mais il a déjà prévu pour cette descendance au travers de Rebecca. Et ce que nous devons retenir, c'est qu'avant même que nous l'invoquions, même avant que le besoin apparaisse, Dieu a déjà pourvu. Bien avant la fondation du monde, bien avant que nous soyons empêtrés dans le péché, il avait déjà prévu le plan de salut pour chacun d'entre nous. L'exemple du bélier avec Abraham et Isaac. Un deuxième exemple, c'est Joseph. Mes frères et sœurs, soyons pleinement convaincus de cette réalité que Dieu ne peut jamais être pris au dépourvu. Il contrôle tout. Le psalmiste dit « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose. » Alléluia. Psaume 103, le verset 19. Et c'est vrai que cette précision dont je parlais, que nous trouvons dans le premier chapitre de la Genèse, dans toute la création, cette harmonie, cette précision de Dieu, on la retrouve notamment dans la vie de Joseph. Et dans notre vie aussi, que nous en ayons conscience ou pas, Dieu agit avec beaucoup de précision. L'exemple de Joseph est absolument remarquable. On peut lire ensemble ? Allez, Genèse 45, verset 5. On lit juste comment Joseph parlera à ses frères de cette souveraineté de Dieu. On ne revient pas sur toute l'histoire, ce serait un petit peu long. Mais regardez un petit peu cette parole de Joseph à l'égard de ses frères. Genèse 45, verset 5. Maintenant, Genèse 45, verset 5. Ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu, notez bien ceci, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, car pour vous faire vivre, par une grande délivrance. Verset 8, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Amen. Dieu n'a pas voulu le mal que Joseph a traversé dans sa vie. Dieu n'est pas le créateur du mal pour en sortir du bien. Mais il s'est servi de ce mal que les hommes ont fait. C'est de leur responsabilité. Quand on fait des choix, c'est des choix qui nous incombent à nous. Mais il s'est servi de ce mal pour en tirer un bien extraordinaire. Il dit au chapitre 50, regardez, après la mort de Jacob, il dit ceci, parce que les frères, ils ont eu un petit peu peur, hein, quand Jacob était plus là. Joseph dit ceci, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. » Avant même que le besoin apparaisse, Dieu a déjà pourvu. On va le dire d'une manière un peu plus familière. Bien souvent, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Mais des années après, parce que Joseph, je pense que le premier jour, il était dans la citerne, il n'aurait pas eu les mêmes propos si on l'avait sorti de suite. Mais bien des années après, lorsqu'on regarde en arrière, on peut voir l'image de notre vie. Je peux vous assurer que personnellement, il y a des moments de ma vie où effectivement j'avais la tête dans le guidon, ces temps où on pleure, ces temps où... Et quand on regarde en arrière, à l'époque c'était comme, vous savez, un puzzle. Je ne sais pas si vous aimez faire les puzzles, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, c'est dispersé, ça ressemble parfois à rien, on s'agace et tout ça. Donc c'est vrai que quand on vit un temps pour rire, un temps pour... Voilà, quand on est, c'est tout, c'est parti. Et puis quand vous regardez un peu en arrière, c'est ce que fait Joseph, il voit cette belle image, une fois que ces puzzles sont rassemblés les uns avec les autres. Dieu est précis, son timing est parfait, minutieux, il soigne les détails pour que son plan s'accomplisse. J'avais pris un troisième exemple, on a pris Abraham, Joseph, j'ai pris Esther. Waouh, Esther, incroyable. Donc reviens pas, si vous connaissez pas trop l'histoire ou si vous avez envie de vous faire du bien, vous relirez ce contexte, cette jeune fille qui a été propulsée reine par une circonstance très particulière, là aussi. Le hasard fait bien les choses. Comment, avec minutie, Dieu orchestre tout? Alors, elle a été élevée, mais il y en a un autre aussi qui a été élevé, c'est Aman. Et lui, c'était pas une belle intention. Il est écrit que Aman, lui, ce qu'il voulait, c'est détruire le peuple de Mardoché. Mardoché, c'était le père adoptif d'Esther. Il voulut détruire le peuple, tous les Juifs. Cet homme voulait détruire tous les Juifs, c'est un Hitler de l'époque, hein, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Ce qui est incroyable, c'est que par une certaine circonstance, Mardoché, il va réaliser que peut-être Esther, elle a été mise à cette position pour intercéder en faveur du peuple. Et il va dire ceci, je vous lis le verset. Qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et finalement, même les détails sont assez... Aman, il avait fait un bois pour qu'on pende Mardoché, etc. C'est le même bois qui va être utilisé pour le pendre à lui. Il avait pourvu pour un besoin, mais qui n'était pas le même que ce qu'il avait prévu. Incroyable, la minutie, les précisions. Et le jour même qu'il avait prévu d'exterminer tous les Juifs, il est écrit ceci, au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Ces détails sont importants. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Pile au bon moment. Ouf. Eh oui, il n'est jamais pris au dépourvu, le Seigneur. Ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Vous retrouverez tous ces versets dans le livre d'Esther. Waouh, je ne pensais pas que je serais si long ce matin. Encore un autre exemple, celui de Jonas. Ah, Jonas, c'est particulier aussi, hein. Bon, Jonas, Dieu lui demande d'aller à gauche, il va à droite. Bon, sans commentaire. Il y a une circonstance, t'as la tempête, tout ça, etc. Et on jette Jonas dans la mer. Waouh, à ce moment-là. Un grand poisson pour avaler Jonas. Combien il y avait de grands poissons au kilomètre carré autour de ce bateau à ce moment-là? Bon, à moins qu'il y avait quand même un petit troupeau, mais enfin, je veux dire, quand même, dans l'espace. Vous avez vu comment c'est grand l'océan? Non? Eh oui, c'est grand. Hop, il tombe à l'eau, un grand poisson. Bon. Précision, minutie, extraordinaire. Dieu est souverain. Dans l'ordre naturel, Dieu gouverne sur toute créature. Quand vous regardez le livre de Job, notamment du chapitre 38 au chapitre 41, Dieu répond à Job, mais c'est extraordinaire, en décrivant toutes les œuvres qu'il fait et qu'il contrôle en permanence, sans qu'il ait besoin qu'on l'aide. Dieu contrôle tous les événements, depuis les tempêtes, les fléaux, regardez les 10 plaies d'Égypte, jusqu'à la mort même d'un passereau. Il est écrit, ne vantons pas 2 passereaux pour un sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Vous savez, bien souvent, nous sommes absorbés par le moment que nous vivons, ce que je disais tout à l'heure, un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour travailler, pour se reposer. Nous, ça fait comme des œillères un peu. On est dans ce temps particulier. Et nous avons du mal à réaliser et à lever les yeux qu'il y a autour de cela un plan de Dieu qui est derrière. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Je suis malade. Qu'est-ce que je vais demander au Seigneur? Attention à ce que vous allez répondre. Attention. Faut réfléchir. Voilà. je suis malade, voilà, je suis bien affecté, tout ça. Qu'est-ce que je demande au Seigneur ? Ben, d'être guéri. Ben oui, c'est pas un piège. Peut-être que Dieu permet que par cette maladie, je vais rencontrer un personnel soignant où je vais amener à témoigner. Peut-être que par cette circonstance, je vais me protéger d'un autre mal que j'avais pas forcément vu analyser. C'est important de réaliser que Dieu a tout sous son contrôle et que nous avons besoin. Alors ça ne, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne nous déresponsabilise pas, ça ne nous empêche pas de réfléchir. Nous avons des choix, parfois même des choix difficiles à faire. On n'a pas à être fataliste en se disant, bon, de toute façon, quoi que je fasse. Non, rien du tout à voir avec tout ça. Nous devons être acteurs et Dieu respecte nos choix. Mais ce qui est important de réaliser, c'est qu'il reste toujours aux manettes et que si nous voulons, avec toujours notre volonté, entrer dans ses voies et ses projets, il n'a qu'un désir, c'est de nous y ramener de tout son cœur. On va garder l'exemple de Jonas parce que je vais vous laisser quand même le troisième mot. Alors, le premier, c'était quoi, vous rappelez ? Dieu fait toutes choses belles en son temps. Harmonisation. Ce que Dieu fait est cohérent. Ça vous va ? Vous n'êtes pas contre moi ?
Non.
Bon, ça va. Deuxième point que nous venons voir, c'était quoi ce deuxième mot ?
Précision.
Autant marqué, pof ! Autant voulu, un timing, pof ! Pas besoin de remonter l'horloge, là. C'est... Et je vous le laisse, ce point. J'aurai pas le temps, peut-être une autre fois, on le partagera plus tranquillement, mais je le survole très, très doucement parce que j'avais vraiment envie de vous le laisser. Et l'exemple de Jonas, je l'ai pris exprès pour ça aussi. Le troisième mot, c'est discrétion. Dieu agit avec tact, on pourrait dire, délicatesse aussi. Je vais dire, bon, c'est peut-être un petit peu de jeu de mots, mais en prenant l'exemple de Jonas, j'ai envie de vous dire que Dieu œuvre en sous-marin. On voit rien. On ne ressent rien. Et pourtant, son œuvre s'accomplit. Quand Jonas, il est envoyé dans la mer, on a l'impression que non seulement Jonas, ben oui, il est mort, mais aussi que le plan de salut pour Ninive, il est mort avec. Pourtant, Dieu est en train d'agir comme peut-être il n'a jamais agi dans le cœur de Jonas. Il faut voir ce qui va se passer dans le ventre du grand poisson pour le salut toujours de Ninive. Ce plan et ce projet que Dieu avait prévu, quel que soit l'entêtement même de Jonas, vous voyez, il y a de l'espoir pour chacun d'entre nous quand même. Hein. On me dit souvent que je suis têtu. Donc il y a de l'espoir encore avec moi. Tant pis pour vous. Non mais franchement, vous auriez été à la place de Dieu. Dieu dit, tu vas là, il va là. Il poursuit un projet pour Ninive. Enfin, et nous, on ne voit rien. On se rend compte que... Et Dieu agit. Discrètement. Discrétion. Jésus a clairement dit que Dieu ne cherche pas à nous en mettre plein la vue. Et non. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Luc chapitre 17, verset 20. Et je voudrais à cet endroit du message vous rappeler quand même une vérité fondamentale des Écritures. C'est l'Éternel qui le dit par la bouche du prophète Ésaïe. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas vos voix. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. C'est-à-dire, mes façons d'agir ne sont pas vos façons d'agir. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55, verset 8. Combien de situations, mes frères et sœurs, dans notre vie où nous ne voyons rien, et pourtant où Dieu agit puissamment, comme lors de la résurrection de Jésus. D'ailleurs, Jésus fait un parallèle intéressant entre Jonas et ses trois jours dans le tombeau. Il dit ceci, Jésus leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. » Oui, parce que nous, on est toujours impressionnés par... Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits, pardon, dans le sein de la terre. Tout comme Jonas, on pouvait penser que ça y est, Christ est mort dans le tombeau enseveli, vous rappelez les disciples d'Emmaüs. Nous espérions, ben, tout l'espoir, voilà, tout est fini. Et pourtant, Dieu est en train d'agir pleinement pour le salut de l'humanité. Vous n'êtes jamais posé la question, où est Dieu dans cette affaire de ma vie? Combien de fois n'avons-nous pas senti que tous les événements nous laissaient à penser que ça y est, c'est foutu. Il m'avait dit que je serais, il m'avait pro... C'est foutu. Joseph, il avait reçu des songes extraordinaires. Hein. Il a pu s'en poser des questions. Combien parfois dans notre tête, nous doutons. Et le Seigneur veut vous encourager ce matin à relever la tête. Il vous donne le souffle de vie pour le louer et pour espérer en lui contre tout, malgré tout, dans toutes les choses de la vie. Dieu fait toutes choses belles en son temps. L'exemple de Jonas, l'exemple de Joseph, d'Esther, nous montre qu'au lieu même, qu'à l'endroit même, où on ne voit rien qui manifeste la puissance et l'intervention de Dieu, Dieu est en train d'agir dans toute sa puissance, mais avec, troisième mot, discrétion. C'est bien. C'est bien. L'exemple de la vie de Jésus, et c'est ce que je voulais un peu, mais je le ferai une autre fois, l'exemple de la vie de Jésus dans ce domaine de discrétion est vraiment saisissant. Parlant de Jésus, le prophète Ésaïe déclarait ceci, « Il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Ésaïe 53, verset 2. Quand on parle de discrétion de l'intervention de Dieu, c'est franchement stupéfiant dans la vie de Jésus. On peut dire que Dieu lui-même, au travers de Jésus, s'est fondu dans la masse. Il a pris une chair semblable à la nôtre. D'ailleurs, si vous regardez dans l'histoire, dans la vie de Jésus, ceux qui ont été les plus incrédules ont été ceux qui ont vécu à ses côtés. C'était impossible pour eux de voir toute cette humanité réelle dans la vie de Jésus et de comprendre qu'il était à la fois le Fils de Dieu. La vie de Jésus, c'est Dieu qui naît humblement dans une étable. La vie de Jésus, Dieu qui vit comme un simple homme. Il est né dans une étable, il marche, il mange comme chacun d'entre nous. Il est homme, il s'appelle Fils de l'homme. La discrétion, c'est aussi quand il meurt sur la croix. Dieu lui-même qui meurt comme un brigand. On a l'impression que Dieu n'est pas là. On a pensé qu'il était puni de Dieu, dit le prophète Ésaïe. Et pourtant, Dieu agissait pleinement. Je vais conclure. D'habitude, on dit « Amen », là. Mais on le dit dans la tête, parce qu'on est poli. Non, mais j'aime bien le dire, parce que ça soulage un peu, quand même. Voilà. Vous m'aimez bien, mais quand même, voilà. Mais je vous aime beaucoup, dans le Seigneur, mes frères et sœurs. Ah, vous me gardez alors, ça va. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Job déclare, Dieu tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de, tout chair, de toute chair d'homme. Job, chapitre 12, verset 10. Ne restons pas le nez sur le guidon. Levons les yeux vers le Seigneur, qui inlassablement fait toute chose belle en son temps. Et je termine par ce verset de l'apôtre Paul aux Romains qui dit ceci, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Romains 8, 28, je vous le lis dans la transcription parole vivante, « Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, et car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. Amen. J'ai envie de rechanter le petit chant. Tu peux venir, Béatrice ? Je prie le Seigneur, après on se lève tous ensemble. Attention, il faut que ce soit précis. Hein. Précision. Je prie le Seigneur, on se lève ensemble, on chante ce cantique de tout notre cœur. Parce que, quelle que soit notre conviction dans tout ce que nous avons partagé, je pense que vous avez, même si vous êtes éloigné du Seigneur, vous avez au moins une petite raison pour dire qu'il est merveilleux. Prions-le. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est vraiment la vérité. Elle est cette lampe sur notre sentier. Merci de nous éclairer encore ce matin. Et surtout, de nous aider, pas seulement ce matin, mais dans tous les moments de notre vie, quand tout à l'heure nous nous retrouverons peut-être dans des circonstances moins favorables que ce que nous vivons maintenant, dans les jours suivants, avec nos collègues de travail, avec nos patrons, parfois un petit peu pénibles. Seigneur, donne-nous de lever les yeux et de pouvoir nous rappeler cette belle réalité, que tu fais toutes choses belles en son temps. Donne-nous de regarder peut-être un peu en arrière et des, comme le disait notre frère Janson tout à l'heure, de te bénir pour le chemin déjà parcouru, Seigneur. Et puis on peut regarder devant, Seigneur, avec toi, parce que vraiment le meilleur est devant nous. Ce plan merveilleux de projet et de salut pour chacun d'entre nous, il trouvera son apogée parce que en ce moment même, comme un divin architecte, tu prépares notre future maison. Merci, Seigneur, parce qu'avant même que nous ayons des besoins, tu as déjà pourvu. Nous te bénissons pour le plan merveilleux de salut en Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci pour la croix, merci pour ce moment de Sainte-Cène où nous avons pu nous rappeler vraiment que par amour pour chacun d'entre nous, tu as tout donné.